France Musique.
Musique et moi.
Evelyne Heyer.
Priscille Lafitte, France Musique.
À l'origine de toute connaissance, nous rencontrons la curiosité. Alexandra David-Neal.
Thank you.
Bonjour Evelyne Heger.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, généticienne, vous êtes professeur d'anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle et au Musée de l'Homme et vous signez un livre, L'Odyssée des Gènes, chez Flammarion. L'Oiseau de Feu qu'on vient d'entendre, c'est une œuvre que vous avez appris à aimer avec le temps, vous m'avez dit. Et j'ai envie d'en rapprocher cet Oiseau de Feu de la citation d'Alexandra David-Neil que vous avez cité au tout début. À l'origine de toute connaissance, nous rencontrons la curiosité. Vous êtes curieuse de cet oiseau de feu de Stravinsky ?
Ah, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une musique, la première fois que je l'ai entendue, qui m'a énormément surprise et que je vais vous dire, franchement, j'ai pas apprécié la première fois que j'ai écouté et qu'en la réécoutant, je l'ai aimée de plus en plus. C'est vraiment, je trouve, une musique qu'il faut apprivoiser, quoi. C'est pas quelque chose, je trouve, facile, en tous les cas pour moi, à aborder la première fois.
Pouvez-vous rappeler qui est cette femme, Alexandra David-Neil ?
Ah, c'est une extraordinaire exploratrice, c'est une des femmes, la première à être arrivée à aller au Tibet toute seule en tant que femme. Elle a dû se déguiser en homme et qui a ramené des photos extraordinaires. Et moi, ça fait partie des grandes femmes aventurières qui m'ont vraiment fait voyager dans la tête et qui m'ont donné ce goût de l'aventure.
Un modèle ?
Un peu, quand même.
Evelyne Heger, vous faites un grand inventaire dans votre livre, L'Odyssée des Gènes, un grand inventaire mondial de nos connaissances sur l'évolution et les migrations de notre humanité, depuis l'Homo sapiens et les Néandertals. Vous suivez les peuplements jusqu'aux extrémités de l'Asie et des Amériques. On chemine à travers les âges et les populations jusqu'à constituer une map monde d'immigration de l'histoire. Et vous démontrez que nous sommes tous, jusqu'au recoin de la Terre, d'origine africaine. Alors, comme dans L'Oiseau de Feu, ce conte russe, mise en musique par Stravinsky, vous cherchez à vous emparer de données, vous ne captez qu'une plume, qu'une poussière, c'est évanescent, c'est insaisissable parfois la recherche génétique.
Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à cette analogie, mais vous avez raison. C'est vrai que de temps en temps, c'est pas facile, on trouve pas ce qu'on cherche, c'est difficile à trouver. Et puis, à des moments, il y a comme d'un seul coup, je dirais, un grand tableau qui se dessine. Et en fait, c'est un peu ça que j'avais envie de présenter dans ce livre, parce que la recherche, ça se fait par petites touches. Et je trouvais que c'était le bon moment pour essayer de dresser un grand tableau, un espèce d'odyssée. Et j'avais envie aussi de faire voyager les gens parce que ce travail, une anthropologie génétique, nécessite plein d'aventures sur le terrain. Et je trouvais ça intéressant de mélanger un peu ces aventures en fait personnelles d'expédition avec en même temps l'aventure scientifique. Et je trouvais que c'était un bon moment pour, à partir de toutes ces petites touches, dresser un tableau général.
Alors une de vos premières émotions musicales, Evelyne Heger, c'est aussi une histoire de capture. C'est Pierre et le loup.
Et maintenant, imaginez la procession triomphale. Pierre en tête. À sa suite, les chasseurs tirant le loup. fermant le cortège, grand-père et le chat. Mais grand-père dodelinait de la tête, sans arrêt. Bien, bien, bien. Mais si Pierre n'avait pas pris le loup, hein, dites-moi, qu'est-ce qui serait arrivé? Oiseau volé en pépillant plein de joie.
Seigneur, quel type courageux nous sommes. Pierre et moi, rien qu'à nous deux, nous avons réussi à prendre le loup. Écoute, écoute, si tu écoutes de toutes tes oreilles, tu peux entendre le canard cancanant dans le ventre du loup. Écoute, écoute, car le loup, dans sa précipitation, avait avalé le canard vivant.
Final de Pierre et le Loup, ici dirigé par Claudio Abbado, à la tête de l'Orchestre de Chambre d'Europe. Charles Aznavour est le récitant de ce Pierre et le Loup de Prokofiev. Qu'est-ce qui vous plaisait, enfant Evelyne Heyer, dans ce Pierre et le Loup? C'est que Pierre s'en sorte par la ruse?
Oui, c'est vrai. Non, en fait, moi j'avais choisi, j'aime beaucoup cette musique parce que c'est le moment où j'ai découvert enfant qu'on pouvait associer un instrument de musique à un animal et que finalement la musique, ça pouvait être une façon de raconter les histoires. Et je me souviens quand moi j'ai été élevée dans un village, donc on n'allait pas au concert.
Où ça?
Au Rousse, dans le Haut-Jura, la frontière suisse, donc voilà, assez loin, on peut dire. Et il y avait le maître d'école qui nous faisait des cours de musique par la radio. Il y avait des cours de musique à la radio. Ça devait être certainement France Musique qui faisait déjà ça à cette époque-là. Et donc, on écoutait ce genre de musique tous et ils nous faisaient imaginer, allez-y, imaginez les animaux. Et je trouvais ça, moi, ça me faisait rêver, quoi, complètement.
Vous avez joué de la clarinette, c'est ça, Evelyne Heyer?
Oui, ouais. J'ai joué
vous
de la clarinette.
Vous avez été le chat, alors?
Oui. Bon, j'étais pas très douée. Hein.
Alors, par quelle curiosité, comme on en parlait tout à l'heure, par quelle curiosité avez-vous mis les pieds dans l'anthropologie génétique?
Alors, par le cheminement des mathématiques que j'adorais, les nombres m'ont toujours amusée. Pour moi, ça a toujours été un jeu, les mathématiques. Par le souhait des voyages et par vraiment le souhait de rencontrer les autres humains. Enfin, c'est cette curiosité de l'autre, finalement, qui m'a motivée en utilisant comme outil la génétique qui a besoin de maths, on a besoin de faire des maths pour traiter les données génétiques, et cette curiosité, je dirais, des sciences humaines, et cette envie d'aller voir les autres, et d'aller les voir pas comme touristes, parce que finalement on peut peu se confronter à la vie des gens, mais de vraiment apprendre à les connaître, et voilà, c'est cette grande motivation.
Vous auriez souhaité être ethnomusicologue ?
Ah, j'aurais pu, si j'avais été douée en musique, et d'ailleurs dans mon unité de recherche que je dirige, il y a des ethnomusicologues et on a monté des projets ensemble.
Thank you. Ensemble qui s'appelle Choudé, avec chant bien sûr, guimbarde, vielle, flûte et luth et percussion. C'est un enregistrement qui provient des steppes du Touva. Est-ce que vous pouvez nous situer où sont ces steppes-là, Evelyne Egard?
Alors la région de Touva, la république de Touva qui fait partie de la Russie, est au sud de la Sibérie, donc à la frontière mongole, pour les gens qui connaissent plus la Mongolie, plutôt vers l'est de la Mongolie, et le chant de gorge, donc ce qu'on entend, ce chant particulier, viendrait de la République Touva et après aurait diffusé autour, notamment en Mongolie.
Comment vous déterminez où aller sur le terrain? Qu'est-ce qui vous intéresse, par exemple, sur ce terrain-là?
En fait, sur ce terrain-là, c'était pour compléter ce qu'on avait fait. On avait travaillé plutôt un peu plus à l'ouest, en Asie centrale, les républiques Anstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan et Turkménistan. Et là-bas, il y a des populations qu'on dit turco-mongoles, c'est-à-dire des gens qui sont éleveurs, nomades, et leur origine putative, enfin leur origine supposée, était justement de cette zone de la République Touva. Et donc on a monté des expéditions pour compléter celles qu'on avait déjà faites en Asie centrale, pour aller voir les gens de la République Touva, échantillonner, prélever leur ADN, en même temps prélever des données sur les langues, sur leur manière de se marier, etc., pour après tester cette hypothèse, donc connaître la diversité des gens dans la République Touva, parce qu'il y a plusieurs groupes différents qui parlent des langues légèrement différentes, et de tester effectivement l'origine en partie des peuples d'Asie centrale qui sont pour certains d'entre eux en partie issus de cette région-là, République Touva. Parce que ce qu'il y a de fascinant dans cet endroit-là du monde, République Touva est juste à côté l'Altaï, c'est que c'est une des régions du monde qui a été tout le temps occupée depuis au moins 50 000 ans. C'est-à-dire quand on pense à des zones du monde où il y aurait eu beaucoup de diversité génétique, toujours beaucoup d'humains, eh ben on se représente pas la Sibérie. Eh ben pourtant, cette zone du monde est aussi quelque part une source de peuples qui après sont allés plus à l'ouest, plus à l'est, plus au sud, alors bon, au sens général, dont le plus connu c'est Gengis Khan, qui est bien sûr un peu plus, qui est pas de Touva, hein, qui est de la Mongolie, mais on va dire de cet ensemble, de cet endroit du monde.
Donc vous êtes parti sur les traces des descendants de Gengis Khan,
c'est ça? C'est ça, parce que dans le chromosome Y qui est transmis par les pères, on trouve que à peu près 10% des hommes dans l'ère qui a été colonisé par Gengis Khan, ont un ancêtre commun, on date cet ancêtre commun avec les données génétiques et on tombe à peu près à l'époque de Gengis Khan. Et comme les humains adorent se raconter des histoires et des mythes, on en a fait bien sûr le chromosome Y de Gengis Khan. On n'a pas de preuve formelle que c'est de Gengis Khan. Mais enfin, l'histoire est belle, elle marche bien. Et d'ailleurs, si vous allez à Oulan-Bator, la capitale mongole, où bien sûr Gengis Khan est mis en exergue, vous avez toute une partie sur le chromosome Y de Gengis Khan qui se serait répandu dans toute l'Eurasie. Donc j'aime bien l'histoire.
Alors une des questions fondamentales que vous vous posez, Evelyne Heyer, dans vos recherches, c'est des questions matrimoniales ou patrimoniales. Et c'est une interrogation aussi que se pose Papageno.
Papageno sieht, wo so ein sanftes Toten wäre Seligkeit für mich, wäre Seligkeit für mich, wäre Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weise mich freuen und Wimmel sieben sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weise mich freuen und Wimmel sieben sein. Im Elysium sein, im Elysium sein. Ein Mädchen nur erwarten wünscht Papageno sich, wo so ein sanftes Wort wäre Seligkeit für mich, wäre Seligkeit für mich, wäre Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur außer Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Hilf eine mir nur außer Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Ein Mädchen oder Wagen wünscht Papageno sich, wo so ein sanftes Toten wäre Seligkeit für mich, wäre Seligkeit für mich, wäre Seligkeit für mich. Wird eine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund, schon wieder gesund.
Pa- Papageno à la recherche d'une femme dans la flûte enchantée de Mozart. Ici Rolando Villazone en Papageno, côté de l'orchestre chambre d'Europe dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Evelyne Heyer, vos recherches s'apparentent à de l'archéologie matrimoniale un peu.
Comme le terme est bien choisi. Effectivement, en fait, dans l'ADN, on retrace les histoires de mariage qu'ont fait nos ancêtres, hein, parce que finalement, on est issus de gens qui se sont reproduits entre eux et qui ont eu des descendants et qui nous ont transmis des bouts d'ADN. Et donc, à partir de cet ADN, c'est un peu ces histoires de mariage passé qu'on essaye de retracer. Et moi, c'est la partie qui m'intéresse énormément dans mon métier, notamment de montrer que, d'une manière générale, c'est plutôt les femmes qui bougent que les hommes.
Pourquoi ?
Parce que quand vous vous mariez de deux villages différents, c'est souvent la femme qui va aller s'installer dans le village de l'époux. Et donc toutes ces petites migrations de proche en proche font que dans notre espèce, d'une manière générale, c'est surtout les femmes qui ont bougé. Et donc on peut retracer ça dans l'ADN et ça fait partie des choses qui m'intéressent. Effectivement, de retrouver comment les gens se sont mariés dans le passé et voilà.
Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la génétique humaine, que ce soit les femmes qui se déplacent ?
Alors ça veut dire que selon vos petits bouts de chromosomes, vous allez transmettre certaines choses plus ou moins. On a dans notre génome des choses qui sont plus transmises par les femmes que par les hommes. Par exemple, notre chromosome X, les femmes sont XX, les hommes sont XY. Et donc, vous allez avoir la répartition de l'ADN sur le chromosome X qui va être différente de celle que l'on retrouve sur le reste du génome. Donc, entre autres, moins de différence entre les populations sur ces petits bouts de chromosomes. Donc, moi, ça m'intéresse, c'est pour retracer l'histoire des gens et comment ils vivaient.
Est-ce que c'est le cas partout dans le monde, que ce soit les femmes qui se soient surtout déplacées pour se marier ?
Non, il y a toujours des exceptions. De toute façon, chez l'homme, dès que vous étudiez les sociétés humaines, il y a des exceptions. C'est quelque chose, voilà, on est une espèce d'exception. Et donc effectivement, il y a des sociétés qui sont, elles, matrilocales. Donc là, c'est l'inverse. Quand l'homme et la femme viennent de deux villages différents, c'est l'homme qui va se déplacer dans le village de la femme.
C'est une séquence polyphonique, c'est comme ça que c'est indiqué, des Pygmées Bibayak. C'est un enregistrement de 1989 dans la collection Okora Radio France.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
L'anthropologue généticienne Evelyne Heyer est l'invitée de Musique et moi sur France Musique ce matin. Qu'est-ce que vous avez recherché chez ces Pygmées Bibayak?
Alors, les groupes qu'on dit pygmées sont particulièrement intéressants parce que ça fait partie des rares populations à l'heure actuelle qui ont encore un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette. Ils échangent aussi avec leurs voisins agriculteurs, mais c'est un mode de vie qu'on a eu pendant le gros de l'évolution humaine. Donc, l'idée, c'était de comprendre donc comment ils vivent et comment les populations comme ça échangent entre elles, notamment comment qui se marie avec qui, comment, et comment ils se marient avec les autres groupes. Et donc, moi, j'ai la chance de travailler au Musée de l'Homme où il y a des gens qui travaillent sur ces populations-là, des ethnologues, des ethnomusicologues, depuis un grand nombre d'années. Et justement, les ethnomusicologues ont été vraiment très importants pour ces populations dites pygmées parce qu'ils ont démontré qu'ils avaient une musique très sophistiquée, les polyphonies qu'on vient d'entendre. Or, quand ils ont fait ces découvertes, c'était, je dirais, dans les années 60-70, on était encore dans la pensée du début du XXe siècle qu'il y avait des groupes humains plus ou moins évolués. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de hiérarchie dans l'évolution des différents groupes humains. Les pygmées de petite taille, de couleur de peau foncée, vivant dans la forêt, étant tout en bas de l'échelle, d'après la pensée du début du XXe siècle. Et de montrer que ces groupes humains avaient des musiques aussi sophistiquées, ça a participé à la déconstruction de cette idée de hiérarchie des groupes humains, cette fois-ci par la musique. Donc ça, c'est absolument fondamental, cette musique pygmée. Et moi, j'ai eu la chance, pour avoir pu aller sur le terrain, de voir aussi quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est-à-dire que ces magnifiques musiques pygmées que vous entendez, c'est une cohésion de groupe où chacun a sa place dans le groupe, sait quoi jouer sans que vous ayez aucun chef d'orchestre. Et pour les avoir entendus de vive voix et in situ, franchement, le moment où tout un village pygmé se met à chanter et rentrer dans la musique, c'est un moment extraordinaire. C'est vraiment un moment magique pour toute personne qui aime la musique. C'est quelque chose, je sais pas, c'est une émotion d'une force. Il y a pas grand chose, il se passe rien. Et d'un seul coup, tout le monde se met à rentrer dans cette musique en complexifiant sans arrêt les mélodies, en rajoutant sa voix, en la mélangeant à celle des autres. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Il y a donc une universalité africaine, c'est ce que vous démontrez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi est-ce que nous descendons tous d'Afrique?
Alors, on vient tous d'Afrique. Notre espèce, on va vous faire rapidement le petit odyssée des gènes donc, que je raconte dans mon livre. On se sépare de la branche qui va donner le chimpanzé il y a 7 millions d'années en Afrique. On évolue en Afrique, il y a nos ancêtres une première fois sortent d'Afrique, mais on continue à évoluer en Afrique et il y a 300 000 ans, donc Homo sapiens, notre espèce, émerge en Afrique à différents endroits et elle va partir à l'aventure, notre espèce, à l'extérieur de l'Afrique, il y a environ 70 à 100 000 ans. Et là, on va se répandre et coloniser toute la planète. Et en sortant, on va rencontrer des autres humains qui, eux, étaient issus de sorties d'Afrique avant. On va se mélanger avec eux et aussi on va donc se mélanger avec d'autres espèces qu'on va rencontrer. Donc c'est vraiment une histoire de bougeotte et de mélange.
Thank you.
Evelyne Heyer, vous qui avez parcouru le monde, à quels endroits est-ce que vous avez pu entendre Beethoven ?
Eh bien, on a mis souvent Beethoven dans la voiture, ou du moins l'espèce de voiture qu'on avait, surtout pour voyager dans les grandes plaines, soit de Sibérie, ou dans les grands déserts d'Asie centrale, où on devait faire des centaines de kilomètres, donc des jours de voiture. Et là, on mettait cette musique à fond, quoi, parce que c'est une musique universelle, quoi, et qui amène au voyage, qui fait voyager, quoi.
Thank you.
un extrait du deuxième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven par le West Eastern Divan Orchestra dirigé par Daniel Barenboim. Evelyn Heyer, une autre musique qui parcourt le monde, qui est universelle, c'est le chant qui accompagne les morts. Vous avez beaucoup entendu une grande diversité de ces chants-là.
Oui, il y a une grande diversité et la mort, ça fait partie des grands universels, des grands universaux, comme on dit, de l'anthropologie. Donc, l'homme enterre ses morts depuis 100 000 ans au moins. Donc, il y a toujours eu des rituels associés à la mort. Et la musique aussi, c'est très ancien. Hein, les plus anciens instruments de musique qu'on a trouvés datent d'au moins 20 000 ans. Et il y a dû certainement y en avoir d'autres avant, hein. Parce que ceux qu'on retrouve, c'est ceux qui étaient faits en matériaux qui peuvent se conserver. Et comme chacun sait, même enfant, on peut faire un pipeau à partir d'un bout de bois. Donc, c'est aussi certainement un grand universel. Donc, à mon avis, c'est raisonnable de penser qu'il y a eu une association musique-mort depuis très longtemps dans notre espèce.
À quoi d'autre pourrait être associée la musique ?
Ça peut être associé, bien sûr, à des rituels, à d'autres formes de rituels. Hein. Il y a les mariages, il y a l'entrée dans l'âge adulte, il y a la naissance. Donc, en fait, tout ce qu'on appelle les étapes du cycle de vie, ça s'appelle, d'un point de vue, la naissance, la puberté, le choix du conjoint, la reproduction, puis la ménopause, puis la mort. À chacune de ces étapes, en général, on peut imaginer et on retrouve. Les ethnologues trouvent des rituels associés à chacune de ces étapes-là.
Vous l'avez vu, vous, les Requiem de Mozart mis en scène par Romeo Castellucci?
Malheureusement, non.
Je vous invite à le regarder ainsi qu'à tous nos auditeurs et auditrices parce que ça met en scène l'extinction progressive des espèces et des monuments et fait donc de ce Requiem de Mozart une célébration de la vie.
Thank you.
L'Ostias du Requiem de Mozart, ici par Musica Eterna, sous la baguette de Théodore Courensis. Evelyne Eger, parmi toutes vos recherches, il y en a une que je trouve absolument fascinante, c'est une recherche sur la petite communauté juive de Boukhara. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce
travail-là ? Oui, alors, déjà, moi, quand je suis arrivée en Ouzbékistan, la première fois que j'y suis allée, c'est en 2001. Donc, le pays s'est ouvert à peu près dans les années 90. Hein, donc, c'était assez récent, l'ouverture. Et j'ai été fascinée par la grande diversité qu'on peut trouver chez tous les différentes populations en Ouzbékistan. Et on m'a parlé de communauté juive de Boukhara. J'ai été très surprise de savoir qu'il y avait une communauté juive.
De quelques familles, j'imagine.
Oui, de quelques familles à Boukhara. Et donc, je m'étais toujours gardée dans un coin de la tête que j'aimerais bien pouvoir discuter avec eux et s'ils étaient d'accord, voir dans quelle mesure, avec l'ADN, on pourrait retracer une partie de leur histoire. Et en fait, ça a pris plusieurs années en y allant, en discutant, en revenant l'année d'après, etc. Parce que ça fait quand même presque 20 ans que je vais presque tous les ans, une fois ou deux, en Asie centrale. Et donc, au bout d'un moment, voilà, c'était prêt. On a pu passer, je dirais, à l'échantillonnage.
Parce qu'il faut persuader une communauté et des familles de donner de leur salive. Il faut expliquer votre démarche, en fait, à chaque fois.
C'est-à-dire, voilà, à chaque fois, on explique pourquoi on fait ça, qu'on veut retracer dans le passé, etc. Et là, en fait, il y avait, on n'a pas compris au début, de retracer le passé, ça les intéressait. Il n'y avait pas de problème avec ça. En fait, ce qui les embêtait, c'était avec notre technique de prélèvement qui est basée sur la salive. Donc, il faut cracher dans un tube. Et en fait, c'était ça qui posait un problème. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref, on y est arrivé et donc on a pu analyser l'ADN et en fait, à ce moment-là, il y a un collègue américain qui voulait faire un panorama de la diversité des populations juives et je lui ai dit, tiens, ce serait intéressant, j'ai pu échantillonner la population juive de Boukhara et donc ça a pu être inclus dans une plus grande étude et donc ça a permis de retracer que cette communauté juive vient du Caucase. Donc c'est vraiment une communauté juive issue de communautés juives qui se sont installées au Caucase il y a fort longtemps. On n'a pas encore pu dater quand cette communauté juive est arrivée en Ouzbékistan parce que c'est des calculs beaucoup plus compliqués qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais on a pu démontrer clairement qu'elle faisait partie du groupe des communautés juives du Caucase.
Alors j'aimerais vous faire écouter, Evelyne Eger, un chant traditionnel gréco-byzantin. C'est le chanteur Adrian Sirbou qui est né à Iasi, j'espère que je prononce bien, à la frontière de la Moldavie, qui a été formé aussi à Athènes en Grèce. Et ce travail, il travaille à la mise en valeur de la tradition de la vocalité byzantine et orthodoxe aux côtés de l'ensemble Grain de la Voix de Björn Schmelzer.
The old
l'ensemble Grain de la Voix, qui a exhumé une messe chypriote de l'époque Ars Nova, fin du Moyen-Âge donc, d'un moine appelé Jean Hennel. C'est une messe que cet ensemble ponctue d'airs traditionnels, dont cet air gréco-byzantin « Bethléem Estimazu » chanté par le Roumain Adrian Sirbou. Est-ce qu'il y a encore eu des grandes migrations à cette époque, au Moyen-Âge? Qu'est-ce que vous avez pu retracer de cette époque-là?
Alors, sur le Moyen-Âge, c'est des travaux en cours. Hein. C'est pas une époque qui a été encore beaucoup étudiée. On s'est plus concentré, la recherche sur l'histoire des populations, sur des choses soit plus anciennes, donc l'arrivée de l'agriculture du Moyen-Orient il y a environ 8000 ans, l'arrivée des nomades des steppes il y a environ 5000 ans, ou alors des choses beaucoup plus récentes, donc la colonisation et le déplacement forcé des esclaves et l'immigration des Européens dans différents pays. Et franchement, le Moyen-Âge et aussi ce qu'on appelle les invasions barbares, c'est quelque chose qui est en cours. Je connais différentes équipes qui travaillent là-dessus. Donc on n'a pas encore vraiment de données sur est-ce que ça a été juste des grands bouleversements d'idées qu'on connaît, qui sont très bien documentés, mais aussi des mouvements de population. Donc ça fait partie des points d'interrogation.
Une de vos interrogations aussi, une de vos clés d'entrée dans le travail, je crois que c'est la langue, c'est la question linguistique. C'est une question qui vous intéressait particulièrement sur la langue turque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, alors la langue, c'est très intéressant parce que d'une manière générale, sur la planète, on se ressemble d'autant plus génétiquement que l'on parle une même langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, quand on parle une même langue, on a tendance à se marier entre nous. Et quand on se marie avec des langues différentes, ça va être avec des langues proches. On a comme ça cet effet de proche en proche. Et c'est ça qui avait motivé au début mon travail en Asie centrale, c'est parce qu'on a deux grandes familles linguistiques qui se rencontrent, les turco-mongoles et les langues, on dit, indo-iraniennes qui viennent de l'indo-européen, quoi, comme le français, le latin, etc. Et du coup, c'était de voir comment ça se passe quand on a des langues vraiment différentes dans un endroit. Est-ce que les gens se mélangent pas du tout, un petit peu, etc. Donc, on a pu montrer qu'il y a quand même une préférence à se marier à l'intérieur d'un groupe de même langue plutôt qu'à se marier avec quelqu'un d'une langue différente, même si c'est le village d'à côté. Donc ça, c'était ce qui avait motivé notre réflexion autour de la langue. Et en fait, au-delà de ça, il est apparu que la langue turque est une exception à ce lien des mariages, parce que la langue turque va de la Sibérie jusqu'à la Turquie. Les Turcs de Turquie parlent une langue turque, comme les Turcs, les turcophones de Sibérie, mais qu'il n'y a pas eu de changement génétique. C'est-à-dire que la langue s'est imposée sans qu'il y ait les mariages qui vont avec. Donc on pense que c'est ce qu'on appelle un système de dominance de l'élite turque qui s'est installé à un moment donné en Turquie et qui a entraîné un changement de langue sans pour autant des mariages associés à la langue. Donc c'est l'univers turc, enfin turcophone, est vraiment très intéressant.
C'est ça que vous êtes allé chercher en Ouzbékistan, dans la région de la Karakalpakie?
Oui, en Karakalpakie, parce que c'est une zone de l'Asie centrale où il y a beaucoup de diversité. C'est-à-dire, vous avez à une échelle relativement faible des Turkmènes, des Karakalpaks, des Kazakhs, des Ouzbeks qui vivent autour de la mer d'Aral, qui est au centre de la région de la Karakalpakie.
Et vous avez ouvert votre micro et voici ce que vous avez enregistré. C'est C'est un enregistrement effectué par Evelyne Heger dans la région de Karakalpaki en Ouzbékistan. Evelyne Heger est l'invitée de Musique et moi ce matin. Elle est l'autrice d'un livre intitulé « L'Odyssée des gènes » paru chez Flammarion.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quelles circonstances vous avez effectué cet enregistrement ? Qui est-ce qui chante ? On entend beaucoup de vent.
Ah, c'est une de nos dernières missions en Karakalpaki. Donc c'est au bord de la mer d'Aral et c'est un projet qu'a monté une collègue de Toulouse qui va vous intéresser, où on essaye de voir dans quelle mesure les gens entendent des niveaux sonores différents selon les différents pays du monde. Mais il faudra l'inviter elle pour qu'elle vienne vous raconter son merveilleux projet.
Comment ça, qu'on puisse entendre des fréquences différentes ?
Oui, que le niveau de fréquence que l'on puisse entendre diffère selon les populations humaines.
Fascinant.
Oui, c'est un magnifique projet, mais je ne veux pas dévoiler parce que c'est son projet. Et donc, on a été à la fin de l'échantillonnage qu'on a fait en Karakalpaki, on a été invité par une dame de l'Académie des sciences locales au bord de la mer d'Aral. Donc, vous savez, c'est cette mer asséchée qui a perdu une grande partie de sa surface. Et elle avait invité une amie à elle qui est une grande chanteuse Karakalpak, dont malheureusement, j'ai pas le nom, mais qui est vraiment réputé dans cette région. Et c'est extraordinaire parce qu'on est vraiment au bord de cette mer qui a disparu, qu'on ne voit pas. À côté, il reste encore des espèces de lacs et on a des étendues blanches de sel parce que, en fait, vous avez de l'espèce de sel qui remonte, qui est régulièrement emmenée par les vents. Donc, un paysage où il ne pousse rien, vraiment de grande désolation. Et au milieu de ça, vous avez quand même la création humaine, l'inventivité humaine et un magnifique chant, et donc pour moi c'est un très très beau souvenir.
Un de vos autres terrains de recherche, Evelyne Heger, je crois que c'est au Québec, plus précisément sur les rives du lac Saint-Jean. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas ?
Je suis allé mener une enquête dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc à l'est du Québec. Il y a une forte fréquence de certaines maladies héréditaires, des maladies où, pour être malade, il faut recevoir le gène à la fois de son père et de sa mère. Et l'idée, c'était d'essayer de retracer pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans l'histoire de cette population qui faisait que beaucoup de gens, relativement, avaient cette maladie. Et pour répondre à cette question, il y a des historiens, Gérard Bouchard, qui a monté tout un gros projet de reconstituer la généalogie de tous les habitants de l'est du Québec jusqu'aux premiers arrivants en Nouvelle-France au XVIIe siècle, en s'associant avec d'autres démographes de l'Université de Montréal. Et l'idée, donc, c'était de mener une enquête un peu généalogie génétique pour essayer de comprendre comment ça se fait que dans cette population, on a une fréquence élevée de certaines maladies héréditaires. Donc, c'est une partie de ce que je raconte dans mon livre, L'Odyssée des gènes, pour montrer qu'en fait, les gènes, c'est une machine à remonter le temps il y a très longtemps, le chimpanzé, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, l'homme de Néandertal qui a disparu, l'histoire des agriculteurs qui sont venus du Moyen-Orient, mais aussi pour retracer l'histoire d'une population comme celle de la Nouvelle-France en 10 générations.
Parce que les francophones au Québec étaient en vase clos, en quelque sorte, se mariaient entre eux ?
C'est ça, ils ont été en vase clos parce qu'en fait, la France a perdu la Nouvelle-France dans une guerre contre les Anglais, et donc il n'y a plus d'immigration qui venait de la France. Et de plus, les Anglais étaient protestants. On est à une époque où quand même les grandes catégorisations, c'est protestants-catholiques. Les francophones étaient catholiques et il y a eu une espèce de ce qu'on appelle une guerre du berceau où les prêtres catholiques ont poussé les francophones à avoir le plus d'enfants possible finalement pour pas disparaître face à ces protestants anglais qui étaient venus et qui avaient gagné la guerre.
Donc ça se retrouve évidemment dans le matériel génétique.
On retrouve tout ça dans les données génétiques.
C'est un enregistrement qui date de 1975. Il s'agit du conteur et violoniste Louis Baudreau. Ça a été enregistré dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est étonnant d'entendre cette tradition musicale qui a voyagé. Là, c'est une gigue à Philibert, c'est comme ça que ça s'appelle, une gigue. On a aussi des valses. Il y a une tradition musicale aussi qui a voyagé comme ça au Québec.
Ah ben oui, on voit bien le lien entre le Québec et la France. Et on le voit aussi beaucoup dans la langue, avec notamment dans le québécois des termes qui reviennent, qui sont des termes d'anciens français que eux ont su conserver. Donc quand on est là-bas, on voit bien le lien avec la France, il y a aucun doute, on est vraiment des cousins très proches. Eux, c'est les champions de la généalogie par contre.
Pourquoi? Parce qu'ils ont des registres particuliers?
Eh ben, ils ont des registres bien fournis, qui n'ont pas été détruits, qui ont été très bien conservés. Et comme finalement le
Québec... Contrairement à nous, nos registres ont été beaucoup brûlés.
Oui, il y a des moments, il y a eu la Révolution, il y a des moments où les registres ont été moins bien conservés, alors qu'au Québec, ça a été super bien conservé. Et puis, ils sont issus d'un nombre réduit de fondateurs, du moins les Québécois francophones. Donc, toutes les généalogies remontent aux mêmes individus. Le top 10 des premiers fondateurs arrivés en Nouvelle-France au XVIIe siècle, on estime qu'il a plus de 5 millions de descendants dans toute l'Amérique du Nord. 90% des Québécois francophones l'ont dans leur généalogie.
Comment il s'appelle ?
Il y a plusieurs noms, mais il y en a un qui est dans le top 10 qui s'appelle Zachary Cloutier. Et donc sa femme aussi, hein, j'ai oublié son nom par contre. Et donc on voit bien ici l'histoire qu'on est vraiment tous parents, c'est-à-dire que quand on remonte les généalogies des individus, on remonte forcément un grand nombre d'ancêtres communs. Alors au Québec, c'est particulièrement marqué parce que c'est un nombre réduit de fondateurs pour les populations québécois francophones. Mais si vous faites le même exercice en France, il faudra remonter un peu plus loin. Mais on va remonter à des ancêtres communs, pareil, très fréquents dans toutes les généalogies. Généalogie des Français.
On peut remonter un tout petit peu plus en arrière. D'où vient le peuplement d'Amérique du Nord ?
Ah, le peuplement d'Amérique du Nord, d'après les données génétiques, c'est un peuplement d'il y a 15-20 000 ans, venu de Sibérie, de la région Touva, où on était aussi allé pour échantillonner, pour vérifier qu'effectivement c'est bien de cette région que vient la colonisation de l'Amérique du Nord, qui sont passés à pied par le détroit de Bering, parce qu'au moment des grandes glaciations, on pouvait traverser à pied cette espèce de détroit qui est entre l'Amérique et la Russie. Et donc la colonisation de l'Amérique par Homo sapiens, nos ancêtres, s'est faite il y a 15-20 000 ans, par le nord de l'Amérique, et après on est descendu, notre espèce est descendue jusqu'en bas.
Donc la génétique valide cette hypothèse-là ?
Oui, c'est l'hypothèse qui donne, qui explique le plus des données génétiques des Amérindiens actuels. Il y a eu un article il y a quelques semaines qui a montré aussi qu'il y avait des liens avec la Polynésie, mais c'est des choses plus réduites dans le génome. L'essentiel de la colonisation, c'est vraiment 15-20 000 ans par le détroit de Bering.
Ah, il y a un autre sujet, ils sont vastes les sujets qu'on brasse ce matin dans Musique et moi. Ce sont évidemment les grands mouvements d'esclavagisme et l'arrivée des Africains en Amérique du Nord. Je vous propose qu'on écoute la voix de Leontine Price dans la Tosca de Puccini et qu'on en parle juste après.
Thank you.
Leontine Price, dans la Tosca, Vici d'Arte, l'air de la Tosca, c'est Zubin Mehta qui est à la tête du New Philharmonia. C'est un enregistrement de 1973. Alors si Leontine Price avait fait son test génétique, que pensez-vous qu'elle aurait trouvé, elle qui est une grande soprano afro-américaine?
Elle aurait certainement, en faisant un test d'origine génétique, trouvé la part de ses ancêtres qui viennent d'Afrique et la part qui vient d'Europe. Et maintenant, avec les nouvelles données, peut-être trouver plutôt de quelle région d'Afrique elle serait venue, d'Afrique centrale, du golfe du Bénin. Mais bon, ce que je voulais souligner, c'est que quand on entend cette voix remarquable, c'est difficile de comprendre comment les gens au XIXe siècle ont pu penser que nous, humains, nous étions si différents les uns des autres en fonction de notre couleur de peau. C'est complètement... Enfin, je trouve ça tellement décalé de la réalité de l'être humain. Comment toutes les sociétés occidentales, et c'est allé jusqu'en Asie, ont pu se fourvoyer à ce point-là dans la vision de la diversité humaine, comme si la couleur de peau déterminait les capacités des individus. Et je pense que vous pourriez interviewer un blanc du 19e de n'importe où en Europe. L'idée que quelqu'un de noir, de couleur de peau, puisse chanter un bel opéra comme ça, pour lui, ça aurait été inimaginable. Et je trouve ça fascinant de voir comment, des fois, les humains, on peut complètement se tromper, quoi, sur une vision du monde, heureusement, qui change.
C'était l'objet, d'ailleurs, de l'une de vos expositions au Musée de l'Homme, je crois, ces préjugés-là.
Nous et les autres, des préjugés au racisme, c'est la première grande exposition suite à la réouverture du Musée de l'Homme, où justement l'idée c'était de présenter les nouvelles données, qu'est-ce qu'on sait sur cette question du racisme. L'exposition, elle diffuse encore un peu partout en France, à l'étranger. Là, elle est en train d'ouvrir, notamment sur l'île de la Réunion, aussi en Suisse, enfin, etc. Mais c'est quand même, il faut se replonger dans le passé, c'est fascinant, la vision du monde qu'on peut avoir à certaines époques et des fois les erreurs dans lesquelles on peut se fourvoyer.
Et je trouve que l'universalité de la musique classique qu'on peut observer aujourd'hui, par exemple le nombre d'enfants chinois qui se mettent à apprendre le piano en prenant exemple sur Lang Lang est complètement fascinant. Et vient à rebours de tous nos préjugés aussi sur qui pourrait jouer de la musique classique dans le monde.
Tout à fait, ça casse ce qu'on appelle l'essentialisation, qui est une des composantes fortes du racisme, qui est qu'on définit l'essence d'un individu, donc ce qu'il est capable de faire, sa manière de penser, en fonction de son apparence physique, dans le cas du racisme basé sur la couleur de peau, ou en fonction de sa religion, dans le cadre des formes de racisme basées sur la religion. Et donc les exemples comme ça, effectivement, cassent cette essentialisation, et donc font pour moi des très bons exemples qui participent à déconstruire cette pensée autour de la race.
Alors, on voulait terminer cette émission avec les variations Goldberg. On pourrait entendre celle de Glenn Gould, évidemment, mais je vous propose d'écouter la toute dernière version enregistrée par Lang Lang. Evelyne Heyer, à quels souvenirs, peut-être personnels ou professionnels, sont liées ces variations Goldberg ?
En fait, ces variations Goldberg, pour moi, sont importantes parce qu'elles m'amènent à créer. C'est-à-dire que c'est de la musique, je trouve, qui est un support à de la création. Dans la recherche scientifique, on a besoin de créer. On crée à notre manière, on crée des idées, après on les teste, on les éprouve face à la rigueur de la science. Mais au départ, il y a de la création. Et cette musique, moi, m'amène à penser, à créer, à imaginer. Et en ce sens-là, j'adore vraiment cette musique. Je la trouve à la fois douce et en même temps comme un espèce de support du cerveau pour lui permettre de s'envoler vers d'autres choses. Et donc, pour moi, ça fait partie des musiques que j'adore vraiment écouter. Je ne m'en lasse jamais. Je les écouterai en boucle tout le temps. Et je trouve que, voilà, ça fait partie des musiques qui font ressortir l'inventivité, la créativité, la curiosité, qui sont une des spécificités de l'humain. Hein. Si on a eu cette extraordinaire aventure humaine que je raconte dans mon livre, c'est bien parce qu'on est curieux, qu'on est créatif. Et ce type de musique, pour moi, l'exacerbe.
Alors, je crois que vous chérissez particulièrement, évidemment, l'interprétation de Glenn Gould.
C'est celle que je connaissais.
Merci beaucoup Evelyne Heyer d'avoir été l'invitée de Musique et moi ce matin. Vous êtes anthropologue généticienne au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous avez écrit L'Odyssée des Gènes qui vient de paraître aux éditions Flammarion. 7 millions d'années d'histoire de l'humanité révélées par l'ADN. Et évidemment ce matin on n'a eu l'occasion que de toucher du doigt à peine l'étendue de ses recherches et de ses connaissances. À la réalisation ce matin, Olivier Guérin, à la technique Pierre-Henri, attaché de production Marie Ferdinand.
Priscille Lafitte, Musique et moi. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.